Radio Starbucks.
Morning edition from NPR News.
Sí, sí,
sí, sí, sí, sí.
Lo que se reproduce aquí en la radio.
France Inter. Le 18-20.
Edir Macedo declarou apoio a Jair Bolsonaro. Um apoio importante, tendo em vista que a Igreja Universal tem cerca de 8 milhões de membros no
Brasil. C'est au Brésil que nous sommes. Voici l'annonce du ralliement d'une partie des évangélistes à Jair Bolsonaro, candidat d'extrême droite. Des évangélistes de plus en plus nombreux, et ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde à Rio, à quelques jours du vote. Sous les radars et Amélie Perrier, avec un médecin expulsé du Niger, avec la fin de 60 ans de jumelage entre Osaka et San Francisco pour une affaire de femme de réconfort. Vous comprendrez grâce à Amélie Perrier qui nous parlera aussi de biodiversité musicale. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four et la crise anglophone, cette guerre dont personne ne parle et qu'on voit à peine au Cameroun. Mais avant, c'est pour l'Europe que nous partons avec Nathalie Loiseau. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Nathalie Loiseau.
Bonsoir.
Ministre des Affaires européennes, on va commencer par rester dans le périmètre d'un jour dans le monde, parler d'Europe, de Brexit, d'Italie, d'élections. On ira forcément dire un petit mot quand même de l'État aujourd'hui, du gouvernement et ce qui peut se passer dans les jours qui viennent. Une crise après l'autre, celle qui touche de très près l'Europe. On a entendu aujourd'hui Donald Tusk dire à Theresa May, il est temps de se remettre au travail maintenant au sujet du Brexit. C'est une injonction que vous lui donnez collectivement.
Non, il n'y a pas d'injonction parce qu'il y a beaucoup de respect entre Theresa May et les chefs d'État et de gouvernement européens. Mais ce qui est vrai, c'est que l'heure tourne. On est à 6 mois de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. On a besoin de se mettre d'accord sur les conditions de la séparation avant de pouvoir réfléchir au futur de notre relation. Beaucoup de choses ont été faites. Michel Barnier a fait un travail formidable avec ses partenaires britanniques.
On est toujours dans les fameux 80-20.
Bah oui, on est un peu plus qu'à 80, mais ça fait longtemps. Et maintenant, il faut absolument qu'on arrive à une solution sur la frontière irlandaise qui soit crédible, qui à la fois protège les accords de paix en Irlande du Nord parce que c'est essentiel et qui ne porte pas atteinte à l'Union européenne.
Le fameux backstop, l'idée c'était celle de Michel Barnier, c'était de laisser une frontière ouverte en gros entre les deux Irlandes, le temps de trouver une solution. Sauf qu'on comprend bien pourquoi pour les Britanniques, ça veut dire qu'on a réunifié l'Irlande du jour au lendemain.
Alors oui, non, parce qu'aujourd'hui, si vous allez à la frontière irlandaise, vous ne voyez rien. Il n'y a pas de frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Il y a la circulation des hommes, des marchandises en permanence. C'est évidemment simple puisque marché unique, union douanière, tout ça va ensemble. Ce sur quoi on s'est mis d'accord avec les Britanniques, c'est de garder demain une absence de frontières physiques. À partir de là, il faut trouver une solution en fonction des choix que fait le Royaume-Uni. Si le Royaume-Uni nous dit qu'il ne veut pas être dans le marché unique, ça veut dire qu'il doit y avoir des contrôles sanitaires. S'il nous dit qu'il ne veut pas être dans l'union douanière, il doit y avoir des contrôles douaniers.
Alors quand même, vous vous préparez, alors vous l'avez d'ailleurs dit au Conseil des ministres très récemment, mais vous n'êtes pas la seule, la Commission se prépare aussi, tout le monde se prépare. Les Britanniques aussi, évidemment. On se prépare à pas d'accord. No deal, comme on dit. Est-ce que cette probabilité est plus forte aujourd'hui, y compris au sortir du Congrès des conservateurs au Royaume-Uni ou pas?
Moi, je crois toujours dans la possibilité d'un bon accord, parce qu'on en connaît tous les paramètres, et que on le souhaite, et c'est évidemment la moins mauvaise des solutions. Je ne vais pas vous dire que c'est la meilleure solution. La meilleure solution, ce serait que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne.
Mais ça, c'est trop tard.
C'est quand même comme ça que la relation peut être la plus
cela
étroite.
Dit, ça veut dire que vous y croyez toujours? Vous pensez qu'un revote est possible, vous?
Écoutez, c'est pas à moi de le dire, c'est au peuple britannique. Mais en tout cas, ça n'est pas l'Union européenne qui a chassé le Royaume-Uni. S'il y avait un autre vote...
Mais vous souhaiteriez qu'il y ait un revote? Est-ce que quand
écoutez,
vous y songez...
Moi, je regrette le Brexit, mais je respecte la décision britannique. Et donc, je travaille à faire en sorte que cette décision se passe de la manière la plus ordonnée possible. Je crois que c'est possible d'y arriver, mais tous les scénarios doivent être préparés. On ne peut pas dire à nos citoyens, à nos entreprises, aux Britanniques qui vivent en France, qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord, mais qu'on n'était pas prêt. On n'a pas envie qu'il y ait le chaos. Donc mon travail, c'est aussi de préparer une absence d'accord et de faire en sorte que ça se passe le moins mal possible.
Alors qu'est-ce qu'on craint le plus, nous, par ailleurs? Alors vous en avez déjà parlé, il y a 300 000 Français à peu près qui vivent
au
Royaume-Uni. Il ne faudrait pas que ces 300 000-là se retrouvent en situation en étant illégaux, ce qui serait quand même une sorte de comble.
Évidemment.
Il y en a 150 000 dans l'autre sens, par ailleurs, c'est pareil.
Et sans doute un peu plus.
Qu'est-ce qu'on craint le plus, nous, là-dedans, en fait?
Alors, ce qu'on a à faire, si jamais il n'y a pas d'accord, c'est évidemment de faire en sorte que nos citoyens au Royaume-Uni, les citoyens britanniques en France, puissent garder un statut aussi proche possible que possible de statut actuel ou de celui sur lequel on s'était mis d'accord avec les Britanniques dans l'accord de retrait. Parce que c'est quelque chose qui est acquis entre les Britanniques et nous. Autant garder les efforts intelligents qu'on a faits pour l'avenir de ces gens qui sont notre richesse, la richesse de notre économie, la richesse de nos échanges culturels, scientifiques. Et je crois que de ce point de vue-là, les Britanniques le pensent aussi. Donc ce que moi je prépare, c'est faire en sorte que les Britanniques en France puissent rester dans des conditions satisfaisantes, sous réserve que la même chose soit prévue pour les citoyens français qui vivent au Royaume-Uni. Je prépare aussi ce qui pourrait se passer en cas d'absence d'accord, là encore, je le répète, pour un Français qui reviendrait du Royaume-Uni, pour qu'on puisse continuer à prendre en considération ses diplômes, sa carrière, ses cotisations, ce qui risquerait de tomber si on ne préparait rien.
Alors les gens, les marchandises, est-ce qu'on est capable, nous, de faire sortir du chapeau 700 douaniers supplémentaires subitement, parce qu'il faudra bien rétablir des contrôles, on parle des gens, mais on parle des marchandises, on parle de tout ça. Est-ce que ça sort de terre comme un champignon, tout ça?
Non, ça sort pas de terre comme un champignon, mais Gérald Darmanin l'a prévu. C'est un sujet dont on parle avec l'ensemble des ministres concernés et le Premier ministre depuis des mois. Et donc les recrutements ont commencé dans les douanes, parce que même avec un accord, on ne sait pas quel sera exactement le type de relation future qu'on aura avec le Royaume-Uni. Donc il peut y avoir besoin de contrôle. Ça veut dire des douaniers, ça veut dire des infrastructures, des aires de stationnement. Ça veut dire aussi une modernisation de nos contrôles pour faire en sorte qu'ils soient les plus fluides possibles et pour ne pas avoir des embouteillages à l'arrivée sur le territoire français.
Et les Britanniques savent aussi comment retenir notamment les capitaux. Est-ce que la crainte d'un paradis fiscal à nos portes, parce qu'on sait déjà qu'il peut se passer des choses dans ce goût-là, il y a même eu des mots qui ont été prononcés dans ce sens-là, est-ce que cette crainte-là, elle existe ou pas?
Écoutez, j'ai écouté avec beaucoup d'attention le discours de Theresa May pendant le congrès du Parti conservateur. Ce dont elle a parlé, c'est d'une augmentation des dépenses publiques au Royaume-Uni après le Brexit, en reconnaissant, en tout cas en considérant qu'il y a beaucoup de secteurs qui ont souffert d'un sous-investissement, d'un manque d'engagement public. Je ne vois pas très bien comment le Royaume-Uni pourrait augmenter les dépenses publiques, faire face au coût du Brexit, parce que ce coût est réel, et en même temps baisser les impôts.
Est-ce que Theresa May, qui a été très secouée par son propre parti, alors le discours s'est plutôt moins mal passé, on va dire, qu'il aurait pu se passer, mais enfin qui a quand même été extrêmement secouée, est-ce que vous sentez qu'elle a encore la main? Il lui faut un vote de majorité aux communes. Et disons-le franchement, est-ce que c'est le bon interlocuteur, au fond, Theresa May, qui est tellement affaiblie dans son propre pays?
Écoutez, Michel Barnier, les 27 États membres de l'Union européenne travaillent avec le gouvernement britannique tel qu'il est. Et nous avons tous intérêt à un gouvernement fort avec une majorité forte qui soit capable de ratifier l'accord de retrait.
Mais ça n'existe pas au Royaume-Uni, ça, en ce moment.
Je ne sais pas, je le souhaite en tout cas, et je n'ai pas à interférer avec la politique intérieure britannique. Je ne voudrais pas que les Britanniques interfèrent avec la politique intérieure française. Mais nous souhaitons un gouvernement fort. Nous n'avons aucune raison ni aucun intérêt à affaiblir le gouvernement britannique actuel.
Qu'est-ce qui doit sortir collectivement du sommet du 17 octobre? Qu'est-ce que vous voulez qu'il sorte entre vous, les 27, avant l'arrivée de Theresa May? Qui sera là le 18, par ailleurs, qui
Les lignes directrices que nous avons données à Michel Barnier pour négocier à la fois le retrait et la relation future, elles restent les mêmes, parce que c'est tout simplement, en quelque sorte, l'épine dorsale de ce qu'est l'Union européenne. Nous souhaitons un retrait qui se passe de manière ordonnée, nous souhaitons une relation future étroite avec le Royaume-Uni, mais pas au détriment de l'Union européenne, pas au détriment des intérêts des Européens. C'est le Brexit, c'est le départ du Royaume-Uni, c'est pas le détricotage de l'Union européenne.
Et Dieu sait qu'il y a des soucis entre pays européens, entre 27 en ce moment. Est-ce que sur ce sujet-là, vous avez l'impression d'une véritable union réellement? Est-ce que quelque chose pourrait se fissurer parce que chacun va y trouver son propre intérêt?
Écoutez, c'est pas une impression, c'est une réalité qui s'est montrée de manière très claire à Salzbourg. Ceux qui auraient imaginé qu'il y avait des dissensions entre Européens en ont été pour leurs frais, puisque les 27 chefs d'État et de gouvernement ont dit ensemble la même chose, oui à un bon accord de retrait, pas à n'importe quel prix. C'est assez simple de penser qu'aucun chef d'État ou chef de gouvernement européen n'a envie de travailler au détriment de ses intérêts, des intérêts de sa population, de ses entreprises.
Alors Nathalie Loison, en parlant des sujets sur lesquels les 27 ont beaucoup de mal à se mettre d'accord, où sont d'abord les 58 migrants qui sont arrivés par l'Aquarius à Malte et dont 18 doivent arriver normalement chez nous? Où sont-ils aujourd'hui?
Ils sont débarqués à La Valette.
Déjà là? L'OFPRA, alors à La Valette oui, mais après?
L'OFPRA est parti dès lundi soir à Malte. Je pense que les entretiens entre les rescapés et les officiers de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont en cours. Et d'ici quelques jours au plus tard, les 18 que nous nous sommes engagés à accueillir arriveront sur le territoire français comme les précédents, puisque ce qui se passe depuis juin, c'est très peu d'arrivées, beaucoup moins que l'année dernière, presque 10 fois moins que l'année dernière en Méditerranée centrale. Mais ce qui se passe aussi, c'est la fermeture des ports italiens qui fait que ce sont les pays de bonne volonté qui s'engagent.
Et nous, on est un pays de bonne volonté. Vous dites que nous, on est un pays de bonne volonté là-dessus. Parce que 250, Nathalie Loiseau, puisque c'est si peu, et vous avez raison de le dire, c'est une poignée de migrants depuis le mois de juin.
Nous l'avons fait à chaque fois. Nous sommes le pays qui a été au rendez-vous à chaque fois, et même le plus rapide. Et je vous dirais que quand il s'est agi d'un débarquement en Italie, même Matteo Salvini, qui en général n'est pas tendre avec nous, a reconnu que le premier pays à tenir ses engagements, c'était la France.
Mais puisque c'est si peu, pourquoi c'est si difficile de dire oui à un Aquarius lorsqu'il est quelque part en perdition, puisque effectivement, il peut pas accoster sur un port italien, c'est très compliqué ailleurs. Puisqu'il y a si peu de monde, puisqu'on est dans la poignée, comme vous dites, que les chiffres ont beaucoup bougé, pourquoi c'est si difficile de dire oui, venez Aquarius?
Parce que on ne va pas remplacer le droit international, le droit de la mer, par la loi de la jungle. Parce que aujourd'hui, dire à l'Aquarius, venez à Marseille, ça signifie faites 5 jours de mer. Ça n'est pas ce que l'Aquarius demande. Et d'ailleurs,
non, mais ça lui rendrait quand même bien service à ce moment-là.
Écoutez, ce que nous avons proposé, ce que les Italiens ont accepté en juin, c'est de continuer à ce que les personnes soient débarquées quand elles ont manqué de se noyer dans le port sûr le plus proche, et de faire en sorte que dans ce port sûr, qui est régulièrement l'Italie ou Malte, mais qui est beaucoup plus souvent en ce moment l'Espagne, qui ne fait pas de bruit, que dans ce port sûr le plus proche, on fasse en sorte que l'Europe soit au pied du bateau, que le poids de l'accueil ne repose pas uniquement sur des pays qui sont en première ligne du fait de leur géographie. Cette proposition, elle
c'est
a
juste
été faite.
Une question géographique, donc Nathalie Loiseau, le fait qu'on n'ait pas accueilli l'Aquarius, et il y en aura d'autres, je vous pose la question sur l'Aquarius, mais il y a déjà 2 autres bateaux qui sont en mer en ce moment d'ailleurs.
Mais on a été présents à chaque fois. Les premiers, nous avons contribué à organiser la répartition des personnes qui ont été sauvées. À chaque fois, et Emmanuel Macron prenant lui-même son téléphone pour appeler Pedro Sanchez, Costa au Portugal, Angela Merkel, les pays de bonne volonté. Ce que nous souhaitons, c'est trouver une solution pérenne. Ça n'est pas quelque chose que les chefs d'État règlent coup par coup, par téléphone. Il doit y avoir une solution pérenne. Elle est possible, elle a même été acceptée en juin. Maintenant, la question que je pose, c'est de savoir qui cherche des solutions et qui cherche des coupables, ou qui veut vivre électoralement de l'entretien des problèmes.
Et nous, c'est pas une question électorale, c'est pas parce que politiquement c'est trop compliqué qu'on préfère ne pas s'embarrasser d'un Aquarius qui arrivera à Marseille, par exemple.
Écoutez, est-ce que c'est simplement pour une histoire de 5 jours dans le port de Marseille, comme vous le savez.
Alors, il a débarqué simplement à Malte. Donc, mais effectivement, par exemple, du coup, maintenant qu'on a pu réfléchir à froid, est-ce qu'on lui donnerait un pavillon français à l'Aquarius? En ce moment, il y a le Marigionio, qui est un pavillon italien, ce qui est quand même manque pas d'ironie, d'ailleurs, mais il est là. Il y a un autre bateau, je crois que c'est un bateau espagnol, qui est aussi en train de croiser dans ces mers-là.
À ma connaissance, et s'agissant de l'Aquarius, il n'a toujours pas perdu son pavillon panaméen. Alors c'est quelque chose que je suis, je dirais, au quotidien. Et il n'a pas demandé de pavillon français. Il a lancé un appel.
Avec le recul maintenant, ça fait quelques jours, on s'est posé là-dessus. Si l'Aquarius le faisait, est-ce que vous diriez OK, dont acte? Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on lui donne un pavillon français?
On regarderait avec son armateur qui est allemand, si c'est ce qu'il souhaite. Ça n'est pas du tout le signal qui a été donné par SOS Méditerranée jusqu'à présent. Et Dieu sait si les autorités françaises ont été en contact étroit avec eux.
Est-ce que vous avez le sentiment que ces bateaux, parce qu'on a beaucoup entendu cet argument-là, est-ce que ces bateaux de secours sont des appels d'air ou pas du tout? Est-ce que c'est le sentiment que vous avez, vous?
Non, ce ne sont pas les bateaux des ONG qui sont des appels d'air. Personne ne se met en situation de naufrage volontairement parce qu'il y a un bateau en face. En revanche, il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est que les passeurs, les trafiquants d'êtres humains organisent ces naufrages. Ils savent pertinemment, lorsqu'ils mettent des migrants ou des demandeurs d'asile sur des canaux pneumatiques,
qu'ils pourront être secourus, mais du
non,
coup, nous...
qu'ils vont se noyer.
Oui, oui,
et donc mais c'est de la non-assistance à personne en danger,
mais qu'ils
c'est de la mise en danger de la vie d'autrui. Et nous, nous voulons que ça s'arrête.
Mais qu'ils pourront aussi être secourus, Nathalie Loiseau.
Non, il y a une autre manière de traiter les demandeurs d'asile. C'est ce que nous faisons depuis l'année dernière au Niger, au Tchad, d'envoyer des officiers de l'OFPRA pour des entretiens, ceux qui relèvent de l'asile, et parfois nous obtenons qu'ils puissent quitter la Libye et revenir au Sahel. Ils vont en Europe en avion, sans le traumatisme de la traversée de la Libye qui est atroce, sans le risque de se noyer en Méditerranée. C'est ça qu'il faut faire. Et ceux qui ne relèvent pas de l'asile, nous préférons leur dire à ce moment-là qu'ils le sachent, qu'ils puissent être raccompagnés dans des conditions humaines, décentes dans leur pays d'origine et être accompagnés dans un nouveau projet. C'est ça que nous voulons. Il n'y a aucune raison de penser qu'un demandeur d'asile doit risquer de se noyer en Méditerranée pour pouvoir rejoindre nos côtes, alors que ça n'est pas le cas. Et il n'y a aucune raison de penser qu'il faut engraisser les trafiquants d'êtres humains en les laissant transporter des migrants économiques qui, à la fin, vont être sans papier en Europe. Ça n'a de sens pour personne.
On ne peut pas faire plier Matteo Salvini, visiblement, sur les migrants. Enfin, ça a l'air extrêmement compliqué. Les discussions ont l'air très compliquées. En revanche, là, en ce moment, on va les chercher sur le budget. Est-ce qu'il y a, en Europe, finalement, deux poids, deux mesures, quelque chose sur lequel on est extrêmement ferme? Il y a cette phrase de Jean-Claude Juncker qui dit « Si l'Italie veut un traitement particulier supplémentaire, ça signifierait la fin de l'euro. Il faudra donc être très strict. » Pourquoi on ne peut pas tenir le même discours qu'on tient l'Italie sur le budget au sujet des migrants?
Mais on tient à la fois le même discours consistant à dire il y a un devoir d'humanité qui consiste à ouvrir ses ports quand des gens se sont noyés, et il y a un devoir de solidarité de l'Europe. Et il faut quand même admettre que depuis 2015, il y a certains pays en Europe qui se sont détournés de leur devoir de solidarité, et on doit une réponse à l'Italie. C'est à ça qu'on a travaillé en juin, pour faire en sorte que l'Europe soit vraiment beaucoup plus présente en Italie, mais aussi en Grèce et en Espagne, j'y reviens, le pays qui est aujourd'hui confronté à un afflux de migrants, ça n'est pas l'Italie, c'est l'Espagne. Sur la question du budget italien, ça n'est tout de même pas la France qui, pendant des années, n'a pas rempli ses engagements par rapport au critère de Maastricht, qui va donner des leçons à l'Italie. Ceci posé, nous avons besoin d'une Italie forte.
On est dans une dette qui est quasiment collée à celle de la Grèce, 133%
du PIB, c'est
beaucoup.
On est dans une dette très élevée. On a besoin d'une Italie forte. L'Italie a besoin d'un euro fort et d'une zone euro forte. Donc on a besoin de travailler ensemble pour faire en sorte de ne pas créer une nouvelle crise. Comme on a connu la crise grecque, on n'en a pas besoin de cette crise.
Emmanuel Macron, récemment, a parlé d'une opposition progressiste et nationaliste. En gros, c'était ça le sens de son discours. Moi, je me demande toujours en fait ce que ça veut dire populiste au fond, et si on peut mettre tout le monde dans ce même sac-là. Et surtout, est-ce que nous sommes, nous, l'îlot progressiste? C'est comme ça qu'il faut lire les choses?
Vous savez, Emmanuel Macron l'a dit, mais il n'est pas le seul. Jean-Claude Juncker l'a dit le 12 septembre, il l'a encore redit hier. Il a parlé de ce nationalisme malsain qui monte et qui peut détruire le projet européen. Souvenons-nous, puisqu'on parlait du Brexit au début de notre échange, que Nigel Farage, le leader de UKIP, avait dit qu'il avait deux objectifs. Le premier, c'était de faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne. Le deuxième, c'était de détruire l'Union européenne. Il y a des gens aujourd'hui en Europe qui ont comme objectif de détruire l'Union européenne. À un moment, on n'en a jamais eu autant besoin. C'est un moment historique, il ne faut pas se tromper de combat. Et pour ne pas se tromper de combat, pour le gagner, il faut le nommer, il faut le mener, ce combat.
Et vous avez l'impression que cette envie d'Europe, on a réussi à la réactiver? Parce que, par exemple, il y a eu les fameuses consultations citoyennes. Ça ne marche pas très fort, pour être tout à fait honnête. Alors, j'ai vu le chiffre, 31 000 personnes. En soi, c'est pas si mal, 31 000 personnes,
mais c'est
pas
plus
beaucoup
que ça,
quand même.
Il y aura eu plus de 1 000 débats à la fin du mois d'octobre, au moment où nous nous serons arrêtés, rien qu'en France. Il y en aura eu partout en Europe. Peut-être que vous ne trouvez pas ça suffisant. Il n'y a jamais eu une consultation de ce type, aussi qualitative, et surtout en allant écouter des gens qui ne sont pas des passionnés d'Europe ou des anti-Europe acharnés. On a visé à écouter toutes les catégories de population, dans tous les types de territoires, et ça a marché. J'en ai fait moi-même une cinquantaine. Je peux vous dire que les gens viennent, que ça les passionne, qu'il y a des attentes fortes. Dire que les gens sont satisfaits de la manière dont l'Union européenne se conduit, pas nécessairement, mais moi non plus, Emmanuel Macron non plus. Nous sommes exigeants vis-à-vis de l'Europe, et nous voulons que l'Europe soit à la hauteur des attentes.
Nathalie Loiseau, je ne peux pas vous laisser partir, il nous reste très peu de temps sans parler quand même de ce qui se passe aujourd'hui au gouvernement. Est-ce que ce n'est pas très long, plusieurs jours pour trouver un nouveau ministre de l'Intérieur. Vous avez une sorte d'impatience, vous aussi, ou pas?
Pas d'impatience, parce que Édouard Philippe assure l'intérim, parce que les forces de sécurité font un travail formidable, on l'a encore vu hier. Vous savez, moi, je voyage en Europe toute la semaine, tout le temps, partout. Je vois des gouvernements, mais aussi des représentants de la société civile qui me disent « on aimerait avoir un gouvernement aussi engagé, autant de réformes et une majorité aussi solide que ce que vous avez en France ».
Quand on se désole, quand on se compare,
on se désole pas parce qu'on est au travail.
Mais c'est long quand même ce temps-là. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de plan B? On a du mal à le trouver, ce plan B. On a du mal à s'élargir, cette famille, non?
Pas du tout. Écoutez, elle s'est tellement élargie que depuis l'année dernière, les trois quarts des députés sont des nouveaux venus à l'Assemblée nationale. Cette critique, je l'entends parfois, de vieux politiques qui ont fait carrière depuis 30 ou 40 ans dans le même sillon. Je la trouve assez cocasse.
Mais ça nous ramène aussi, à ce qu'on disait finalement tout à l'heure. Il y a un besoin de changer d'image en ce moment de la part d'Emmanuel Macron. Il y a quelque chose qui colle moins. Est-ce que vous l'avez noté, vous aussi? On parlait de donner l'envie d'Europe. Si c'est lui qui donne l'envie d'Europe, il va falloir aussi que cette image soit conforme. Là, en l'occurrence, on voit bien monter des histoires d'arrogance, de difficulté de trouver un lien avec les gens, le moment Benalla, le moment ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à recoller? Vous le voyez souvent, vous. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que il y a quelque chose à changer, là, en ce moment?
Écoutez, je crois que c'est quelqu'un qui va beaucoup au contact de toutes sortes de populations. C'est quelqu'un qui dialogue beaucoup, qui rencontre beaucoup de monde, qui est très à l'écoute, qui se nourrit de ce qu'on lui dit. C'est quelqu'un d'énergique. C'est pour ça qu'il a été élu. Et il déroule exactement le programme qui a fait qu'il est devenu président de la République. Et beaucoup de Français le reconnaissent.
Voilà, l'Europe avec vous, Nathalie Lozeau. J'espère qu'on aura largement l'occasion d'en reparler. Les élections, c'est le 24 mai, 23
26 mai.
26, ouf, ben voilà. À la fin du mois de mai. Et merci beaucoup.
Avec plaisir.
France Inter. Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde, ça se passe au Brésil où les évangélistes ont donné une grande partie de leur voix aux candidats d'extrême droite sous les radars avec Amalie Perrier dans un instant aussi. Et puis juste après, c'est vous Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Dans le monde à l'envers, c'est le Cameroun avec un conflit caché derrière l'élection qui a lieu dans les jours qui viennent.
Exactement, il y a les conflits qui font la une et ceux dont on ne parle jamais. Silence, on tue, en voici un. Cette guerre civile au Cameroun qui ne dit pas son nom.
Allez, à tout de suite, le tour de la planète continue avec les Navigangs. Ils déboulent d'Oma, figurez-vous, dans le Nebraska. Ça s'appelle Housekeeping. Sur France Inter, la chanson s'appelle Housekeeping et Amélie Perrier, ça n'a rien à voir, est sous les radars.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
À moins que vous vouliez faire de la housekeeping.
Non,
studio,
je
Amélie,
laisse,
mais non,
laisse.
Voilà.
Non, vraiment.
Amélie, un médecin humanitaire a été expulsé du Niger.
Oui, c'est la pédiatre Anne Pité. Elle travaille pour Médecins sans frontières à l'hôpital de Magaria, tout au sud du Niger. Et les autorités n'ont pas du tout aimé cette vidéo postée sur les réseaux sociaux par MSF.
298 décès en un seul mois.
En un seul mois, ouais.
Ça veut dire 10 décès par jour en moyenne. Je crois que personne n'a jamais vécu autant de décès. Moi, j'ai jamais vu autant de décès de ma vie.
Non.
Mais c'est aussi vrai que moi, j'ai jamais vu autant de patients sévères qui arrivaient en même temps. Quoi. C'est intéressant. Ils arrivent par wagon, tous plus mal les uns que les autres. L'autre jour, on en avait 14 enfants dans la petite salle de stabilisation de 6 lits. Donc, il y en avait... Deux par lit, plus deux par terre, qui venaient tous d'arriver, qui étaient tous super mal, qui avaient besoin de réanimation, quoi, parce qu'ils étaient en train de mourir. Et il y en avait 14 à la fois.
La MSF suisse affirme que ses équipes doivent faire face en ce moment à un pic inquiétant de cas de malnutrition et de paludisme. L'hôpital de Magaria est le seul centre médical pour les 700 000 habitants de la région. Situation critique, alors un mensonge selon le pouvoir nigérien. Cette pédiatre manipule les chiffres, nous dit le ministre de la Santé Idi Ilyasu Menasata.
On a été à Magaria, on a pris tous les registres où tous les cas de maladie sont enregistrés, tous les cas de malnutrition sont enregistrés, le nombre de décès. Contrairement à ce qu'elle a rapporté dans leur propre registre, on a identifié que 10 décès du 2 septembre au 30 septembre 2018. Mais quand elle dit chaque jour il y a 10 décès, alors qu'il n'y a pas 10 décès, mais pourquoi rapporter des mensonges, à quelle fin?
La pédiatre suisse Anne Pité a donc été expulsée du Niger. MSF Suisse va pouvoir continuer à travailler sur place car les responsables ont affirmé aux autorités qu'elle n'avait pas agi au nom de MSF. La vidéo est pourtant bien estampillée par l'ONG et postée sur le compte officiel. Le Niger en tout cas semble trouver les humanitaires de plus en plus gênants. En juillet, le pouvoir mettait fin aux activités de MSF France dans la région de Maradi, là aussi ravagée par une crise alimentaire sévère. Une curieuse façon de lutter contre ces drames qui ont replacé c'est le Niger cette année à la dernière place du classement mondial en termes de développement humain.
Amélie, un divorce entre Osaka et San Francisco.
La japonaise n'a pas du tout apprécié la récente inauguration à San Francisco aux États-Unis d'une statue payée par le comité Justice pour les femmes de réconfort dont fait partie Lilian Singh. Alors elle dit c'est une magnifique statue qui représente les trois pays où l'on a compté le plus de femmes de réconfort, la Chine, la Corée et les Philippines. Il faut peut-être vous rappeler ce qu'il y a derrière cet euphémisme, femmes de réconfort.
On devine un peu quand même.
En fait, ce sont des esclaves sexuelles envoyées dans les bordels pour les soldats japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le Japon n'assume toujours pas bien cette page de son histoire. Alors le maire d'Osaka a décidé de rompre cette semaine ce jumelage de plus de 60 ans avec San Francisco. Dans une lettre de 10 pages en anglais qu'il vient d'envoyer à son homologue américain, il explique qu'il va sans dire que le recours à des femmes de réconfort par des soldats japonais pendant la Seconde Guerre mondiale est impardonnable, mais il conteste le texte de la plaque en dessous, des faits incertains, dit-il, et des allégations unilatérales présentées comme des faits historiques. Selon lui encore, le problème ne devrait pas être présenté comme uniquement venant de l'armée japonaise. Le Japon, il faut le dire, s'est excusé hein, dans un accord avec la Corée du Sud pour les supplices endurés par ces femmes, mais il refuse toute responsabilité légale et donc toute demande de compensation financière pour les survivantes. Et puis, vous savez ce que c'est que la biodiversité musicale pour terminer, Fabienne?
Bien sûr, évidemment. J'en mange souvent.
Eh bien, c'est le pari fou, un peu, quand même, du festival Francofaune. Faune comme en biologie, pour parler de l'ensemble des espèces animales. C'est à Bruxelles à partir de ce soir. Les organisateurs veulent donner de la place, je cite, aux espèces musicales en voie d'apparition. C'est joli.
C'est joli comme
on file la métaphore avec des combinaisons inattendues entre piliers de la chanson française et groupes émergents, du hip-hop belge, de la folk québécoise, de électropop suisse, tous les styles, toutes les origines, avec un fil quand même, on chante en français. Mm-hmm. On y verra Brigitte Fontaine ou encore le rappeur Balogi qu'on entend là.
Je vis au corps, pas cette passion énergivore, jus de poignet, vapeur de stup, des draps souillés.
C'est juste 14 octobre à Bruxelles, en Belgique, donc.
Eh bien, formidable. Merci beaucoup, Amélie Perrier, sous les radars tous les jours, dans Un jour dans le monde.
France Inter,
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20,
le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
Et c'est donc au Brésil que nous emmène l'escale reportage d'Un jour dans le monde, un Brésil qui vote dimanche. Un candidat en prison, vous le savez, remplacé in extremis par son numéro 2, mais le charisme en moins et ça compte. Un candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, qui lui a pris deux coups de couteau. Il est toujours à l'hôpital, mais là pour le coup il est en tête, et sérieusement en tête des sondages d'ailleurs, avec plus de 30% des intentions de vote. Bonsoir à vous, Olivier Poujade.
Bonsoir Fabienne.
En direct de Rio, Olivier, pour Un jour dans le monde. Olivier, il y a un facteur qu'on va aborder ensemble, la place très importante de la religion dans la campagne présidentielle brésilienne. Et voici notamment comment ça se traduit.
Edir Macedo vient d'annoncer son soutien à Jair Bolsonaro. Un soutien important. L'Église universelle abrite 8 millions de fidèles au Brésil.
Et là, Olivier, ce qu'on vient d'entendre, c'est la télé brésilienne qui annonce une chose extrêmement importante. Jair Bolsonaro qui avance main dans la main avec une partie des pasteurs évangéliques du pays, et pas des moindres d'ailleurs. Or, les évangéliques, on le sait, ils sont de plus en plus nombreux, Olivier.
Oui, oui, la progression de la foi évangélique est impressionnante ici. Elle ne touchait que 5% de la population en 2002 contre 22% aujourd'hui. Un Brésilien sur 5, Fabienne, est aujourd'hui confession évangélique. On grimpe même à 35% dans la seule ville de Rio. Ascension fulgurante de ce culte, ou plutôt de ces cultes, car il faut faire le tri. Il y a les baptistes, les néo-pentecôtistes, les presbytériens, beaucoup d'autres encore. Et de nombreux noms d'églises ont émergé ces dernières années, mais celle qui a le plus de succès, c'est celle de l'évêque Edir Macedo. Il est très connu ici, très très riche aussi, et donc très influent.
Et donc c'est le patron de l'Église universelle du Royaume de Dieu, c'est ça qu'on a entendu à l'instant à la télévision brésilienne, et il a donc donné son soutien à Jair Bolsonaro.
Bolsonaro, candidat d'extrême droite, ancien militaire, et tout le monde est assez surpris ici, dans la mesure où par le passé, Edir Macedo s'était tourné vers Lula. Sur le papier, c'est un soutien de poids, on l'a entendu. L'Église universelle du Royaume de Dieu représente 8 millions d'électeurs. Le vote évangélique sera déterminant dans cette élection. Alors on s'est posé quelques questions. Comment la foi évangélique peut-elle s'accorder avec le discours de haine, de discrimination de Bolsonaro? Et bien sûr, est-ce que les consignes de vote des leaders évangéliques seront appliquées à la lettre par les fidèles?
Eh bien, on voit ça tout de suite, on écoute votre reportage, Olivier.
J'ai la foi en Dieu, en Jésus et le Saint-Esprit. Je vais être bon avec mon semblable.
Carlos est un fidèle de l'Église universelle du Royaume de Dieu depuis 3 ans. Dimanche, pour le premier tour, il suivra les consignes données par l'évêque Macedo.
Les hommes politiques actuels ont pillé le Brésil. Ils ont vidé les caisses. Ça nous fatigue, tout ça. C'est pour ça qu'on doit finir avec cette race traditionnelle de la politique.
Bolsonaro serait donc le candidat du renouveau, malgré 27 ans de mandat en tant que député. Mais ce sont les consignes. Des consignes que Gerson ne voit pas d'un bon œil. Lui aussi sort de l'Église universelle. Il se dit avant tout fidèle à Dieu, pas à ceux qui prêchent sa parole, encore moins à ceux qui, comme Bolsonaro, se sont convertis pour des raisons politiques.
Je n'accepte pas que Bolsonaro prie, parce que quand il arrivera au pouvoir, il va changer de visage. Il manipule les évangélistes. Et Edir Macedo le soutient parce que le maire de Rio est un neveu à lui et qu'il veut placer son fils en politique. Tout ça, c'est de la manipulation.
Le pasteur que sont venus écouter Carlos et Gerson ne veut pas nous parler. Aucun commentaire sur le soutien affiché par son église au candidat d'extrême droite Bolsonaro. Il se contente d'encaisser les dons des fidèles à la sortie de son oration, machine à cartes à la main. L'église universelle du Royaume de Dieu est une des dernières branches de l'évangélisme apparue au Brésil, basée sur la théologie de la prospérité. Cristiana est une ancienne fidèle et rejette cette nouvelle tendance.
Ce n'est plus les évangéliques traditionnels. C'est une question de richesse. Leur stratégie, c'est ça, c'est une armée. Par exemple, ils arrivent dans une ville pauvre, non? Ils vont prendre 10 personnes de cette ville, de ce quartier, ils vont leur donner une maison, une voiture, comme si d'un coup ils étaient devenus riches. Et eux, ils vont prêcher ça, ils vont dire parce que j'ai donné à l'église X, Dieu m'a donné 10 fois plus. Et c'est comme ça que ça marche. Et là, les gens, ils vont croire à ça. C'est jouer au loto, ça. Je vois un qui gagne, je vais jouer, moi. Le pasteur qui a créé cette église, il travaillait dans la loterie. Enfin, il sait bien, on paye et après, il a un seul qui gagne.
Donc c'est un business.
C'est lui. Ah, mais pour lui, bien sûr, c'est un business.
Comme la société brésilienne, le culte évangélique est aujourd'hui fragmenté.
Vagabundo, périphérique, é o levante da classe trabalhadora.
Monica Francisco est candidate à un mandat de députée de l'État de Rio. Elle est aussi pasteur à l'église presbytérienne du Brésil. Elle ne comprend pas ce mariage entre une partie des évangéliques et Jair Bolsonaro, candidat en faveur de la libéralisation des armes.
Si l'église défend la vie, elle ne peut pas accepter la mort de 50 000 jeunes tous les ans. Des jeunes noirs, pauvres et sans éducation. Le discours de Bolsonaro est un discours de réponse rapide à des situations complexes. Donc si l'Église prêche l'amour, elle ne peut pas prêcher en faveur de la mort. C'est un contresens. Et c'est pour ça que je dois m'opposer à ces gens-là.
D'après les derniers sondages, 34% du vote évangélique irait en faveur de Jair Bolsonaro. Mais rien ne dit que ses fidèles obéiront à ces enquêtes d'opinion.
Et on suivra tout ça grâce à vous, bien sûr, élection ce dimanche. Merci beaucoup Olivier, merci à Romain Lucans aussi, merci à vous deux évidemment Romain pour les moyens techniques. On se retrouvera dimanche pour parler de Brésil, lundi dans Un jour dans le monde, très probablement. Voici Rodriguez et Sugarman, ça date de 70, c'est Jean-Marc Four juste après.
Sugarman, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary.
Rodriguez et Sugarman sur France Inter.
Le 18-20, Fabienne Synthès sur France Inter.
Et le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Jean-Marc, on vote dimanche au Brésil, on l'a entendu. On vote aussi au Cameroun, où le président Paul Biya brigue un 7e mandat consécutif. Ça fait un peu de temps tout ça. Et dans ce pays, au cœur de l'Afrique, se déroule très loin des regards une guerre civile. Loin des regards, ça s'appelle le conflit anglophone. Et jusqu'à présent, il est passé quasiment inaperçu dans les médias. Et c'est votre monde à l'envers.
Alors évidemment, si je vous dis la guerre en Afrique, vous allez sans doute me répondre le Mali, la Libye, peut-être le Soudan du Sud. Mais sauf si vous êtes un spécialiste du continent africain, vous n'avez probablement pas entendu parler de ce conflit anglophone au Cameroun. Et pourtant, l'affaire est sérieuse. De quoi s'agit-il? Sur les 24 millions d'habitants du Cameroun, il y a 80% de francophones et 20% d'anglophones. Ces derniers vivent essentiellement dans les deux régions situées à l'ouest du pays, près de la frontière avec le Nigeria. Et depuis maintenant 2 ans, ça tire dans ces deux régions. Des affrontements violents entre un mouvement séparatiste qui s'appelle l'Ambazonie et l'armée régulière du pouvoir camerounais. Les combats sont quasi quotidiens, les exactions sont féroces, il y a des exécutions sommaires de femmes et d'enfants, des décapitations, des villages brûlés et bien sûr les routes coupées, les usines fermées, etc. En particulier près des deux villes principales, Buea et Bamenda. Le conflit trouve son origine dans le sentiment d'humiliation de la population anglophone du pays. Elle se sent marginalisée, exclue du pouvoir, souvent humiliée par l'administration francophone. Et il est très difficile de dresser un bilan exact en termes de nombre de victimes, des centaines sans aucun doute, peut-être davantage, et surtout plusieurs centaines de milliers de réfugiés et de déplacés qui ont fui les combats, sans doute près de 400 000. On parle donc là d'un exode massif.
Et alors, pardon pour la question naïve, mais du coup, pourquoi on n'en entend pas parler?
D'abord parce que le pouvoir de Paul Biya a imposé une chape de plomb. Il a dissimulé l'importance de cette guerre civile. Il faut rappeler qui est Biya, il a 85 ans, il est au pouvoir depuis 35 ans, c'est-à-dire que c'est le champion du monde de la longévité au pouvoir avec l'équato-guinéen Obiang. En d'autres termes, vu que la population du pays est très jeune, ça veut dire que près de 80% des Camerounais n'ont jamais connu que Paul Biya au pouvoir. Je ne sais pas si vous imaginez. Et Biya ne veut pas admettre que ce conflit anglophone est sérieux, il le qualifie encore aujourd'hui de simple trouble. Par-dessus le marché, Il contrôle les médias, en particulier l'audiovisuel public. Du coup, c'est silence radio, ou en gros silence radio, sur cette guerre civile. Ce sont les réseaux sociaux qui, ces derniers mois, ont dévoilé l'ampleur des combats. Mais comme toujours avec Internet, c'est compliqué de vérifier la véracité de toutes les vidéos qui circulent. En tout cas, dimanche, lors du scrutin, il y a fort à parier que les électeurs de ces deux régions seront nombreux à ne pas pouvoir s'exprimer parce qu'il n'y aura pas de bureau de vote ou parce qu'il n'y aura pas de carte d'électeur. Et comme par hasard, globalement, ça arrange Paul Biya puisque ce sont habituellement des réservoirs électoraux pour le principal parti d'opposition.
Mais alors la communauté internationale, donc nous tous, hein, et les pays étrangers, est-ce qu'ils disent rien non plus?
Mais ils disent pas grand-chose pour des tas de raisons. D'abord, répétons-le, c'est difficile d'avoir des informations fiables. Les journalistes étrangers ont du mal à se rendre, à quelques exceptions près, dans les deux régions concernées. C'est un angle mort de l'information. Ensuite, les pays européens ne sont pas très à l'aise sur le sujet. Et pour cause, ce conflit est un héritage direct du découpage colonialiste. Flashback, 1918. Le Cameroun, qui était sous protectorat allemand, après la défaite allemande, il est découpé entre les Français et les Britanniques. Et c'est ce même découpage que l'on retrouve aujourd'hui entre les régions francophones et anglophones. Troisième raison, la persistance d'un vieux raisonnement qu'on connaît bien sur l'Afrique. Pour les intérêts économiques, mieux vaut un régime autoritaire stable qu'une démocratie instable. Enfin, il y a une confusion savamment entretenue par le pouvoir camerounais entre ce conflit anglophone et la lutte contre les islamistes de Boko Haram. Alors que là, Boko Haram, ça se passe dans une toute autre région du pays, très au nord du Cameroun. Et dès qu'on parle lutte contre l'islamisme, l'Occident donne quasiment un chèque en blanc. Résultat, dimanche, pour le vote, il n'y aura même pas d'observateurs européens, officiellement parce que le Cameroun ne l'a pas demandé. Comme ça, on est tranquille, on peut continuer de fermer les yeux. Une guerre civile au Cameroun, quelle guerre civile?
Allez, Jean-Marc Fourré, Le Monde à l'envers. Merci beaucoup Jean-Marc. À demain, le 18-20, la suite, c'est le journal de Sébastien Paour. Et puis le téléphone sonne avec Riyad Satouf ce soir. Merci de passer la soirée avec nous et ne changez rien.